Un très bon début de semaine à vous tous. J'espère que vous allez bien. Avez-vous passé un bon week-end de magasinage? Il y en a pour qui ça va se poursuivre sur Internet. Marquez bien, on nous parle du vendredi fou. C'est la folie. On en a parlé, nous, pendant une heure vendredi dernier. Mais c'est quasiment sans arrêt depuis. Et ça va se poursuivre encore toute la semaine. En même temps, il y a beaucoup de vidéos qui circulaient sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça au cours des derniers jours, justement, qui montraient l'autre côté de la médaille des usines où on exploitait des enfants qui travaillaient pour faire les vêtements que nous, ici, monde occidental, nous payons à grands frais, mais quand même à rabais pendant ces journées de vendredi fou ou de cyber Monday, cyber lundi comme aujourd'hui. Je voulais juste vous dire ça parce que juste pour se forcer à mettre en contexte quand même tout ça, on va parler de motivation parce que vous savez que c'est important. On est lundi matin, il y a bien des gens, je sais pas si c'est votre cas, combien parmi vous, je vous pose la question là, sont vraiment motivés par leur rentrée au travail aujourd'hui? Si vous êtes comme les gens à qui Gallup a posé la question, sondage, compagnie de sondage, apparemment 70% des gens sont démotivés quand ils rentrent au travail. 70% des travailleurs démotivés. Pas grand monde qui rentre de bonne humeur puis qui a envie d'y aller vraiment. Ça fait juste à peu près 30% des gens qui se disent « bon, ben on y va puis on est content. Les deux tiers, ils vont à reculons. » Bon, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer ça. Puis on va en parler de ces raisons-là avec mes invités. Je vais vous dire aussi qu'en deuxième heure, on recevra Guy Lenguay, Louis Morissette, que vous connaissez bien. On va parler d'autisme, entre autres, parce que je sais pas si vous le savez, mais il y a de plus en plus de cas d'autisme dans les pays occidentaux comme le Canada. Et il y a une maison qui va ouvrir ses portes l'année prochaine. On aura également, en fin d'émission, la chanteuse country que tout le monde aime, et on peut le dire, Guylaine Tanguay sera avec nous. Mais d'abord, je reviens à la démotivation, puis déjà, préparez-vous à nous appeler pour nous dire quel est votre statut ce matin, votre esprit, votre état d'esprit. 514-790-9850. Êtes-vous démotivé, là, en ce lundi matin, grisounet, où, franchement, on vient d'avoir les prévisions également pour l'hiver qui s'en vient. On a juste envie de déménager ce matin. Fait que, donc, ça aide pas non plus. T'sais. Les lundis sont difficiles. Avec nous, Jean-François Berthollet, enseignant à HEC Montréal, consultant en développement organisationnel. Merci Jean-François.
Ça fait plaisir.
D'être avec nous. Toujours motivé, lui.
Ben oui.
Martine Hébert, vice-présidente principale à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Martine, merci d'être là.
Merci de l'invitation.
Guillaume Desnoyers, chasseur de tête. Il est associé chez Desnoyers Ressources et Conseils. C'est un conseiller en ressources humaines. Merci Guillaume d'être avec nous.
Bonjour Isabelle.
70% des travailleurs démotivés, là, Jean-François. Mm-hmm. Que se passe-t-il?
Bon, premièrement, que se passe-t-il? Ben rien. Parce que ces données-là sont les mêmes depuis à peu près 20 ans.
C'est vrai.
Ah oui, les données de Gallup, là, je les présente à chaque année. Et des fois, je refais des conférences, puis j'ai dit, j'ai des bonnes nouvelles, je les mets à jour. C'est les mêmes.
Mais je veux juste dire, là, j'ai pas ressorti une vieille affaire.
Non, pas tout. Mais justement.
Ça vient de ressortir, c'est un nouveau sondage.
Moi, souvent, je le présente très positivement. Je dis 30% de vos employés sont motivés, mobilisés.
Et, on fait pas d'émission de radio avec le bonheur, moi,
je Non. mais tiens, c'est Einstein, là, je vais essayer de bien le citer pour pas qu'il. Qui me critique, qui disait, on essaie pas de faire des choses différemment, on refait toujours la même chose, puis on s'attend à des résultats différents. Et donc, motivation, on refait l'émission, mais les entreprises s'entêtent souvent à employer les mauvaises pratiques, puis on se retrouve avec les mêmes taux de mobilisation, de motivation. Faudrait peut-être commencer à penser faire autrement. T'sais, puis on est là avec des tables de ping-pong, là, ça va peut-être faire monter de 1%, mais on n'a pas changé la façon fondamentale de traiter nos employés. Ça reste la même chose.
Exactement.
Il y a pas tant de joueurs de ping-pong que ça au Québec.
Non, c'est ça.
Guillaume, toi, tu dis la motivation, avant de dire démotiver, la motivation, ça appartient à l'employé, ça appartient pas à l'employeur.
Ben, il y a toujours une composante personnelle assez importante là-dedans. Là, je vois des gens qui viennent me rencontrer parfois puis qui sont en voie de vouloir changer de poste. Puis finalement, tu te rends compte que les raisons principales de leur volonté de changer de poste, c'est qu'ils sont malheureux. Puis ce malheur-là, ben, ils le traînent parfois avec eux. Fait que c'est pas surprenant non plus que ces chiffres-là ne changent pas beaucoup parce que oui, l'employeur a une certaine responsabilité puis peut créer un climat qui va être favorable, mais il n'y a pas toute la responsabilité de la motivation de ses employés.
Non, c'est vrai. On en a une grosse partie, Martine.
Ben c'est ça. Moi, c'était mon commentaire, c'est de dire c'est à double sens. Hein? Je veux dire, ça vient la motivation. C'est sûr qu'elle vient de soi d'abord et avant tout. L'employeur a aussi, par contre, une part de responsabilité pour motiver ses employés puis les garder motivés au sein de l'entreprise. Et j'entendais Jean-François dire les employeurs ont des mauvaises pratiques qui perpétuent. Je mettrais un petit bémol là-dessus de dire c'est peut-être le cas dans certaines entreprises, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas non plus suffisamment outillés pour être capables de mettre en place.
Qui sont pas motivantes.
C'est ça. Qui ont pas les outils, ouais. Ou, tu sais, qui ont, surtout dans le contexte actuel, là, où les travailleurs bougent, on a de la misère à retenir les employés, à les attirer. Mm. Je pense que, les employeurs ont avantage à développer des techniques de gestion des ressources humaines qui vont garder les employés motivés. Puis, tu sais, des fois, ça prend pas grand chose, hein. Moi, là, je regarde ça, la petite tape dans le dos.
Le changement
là,
est difficile.
La petite tape dans le dos, le courriel qui dit bravo pour dire, ben, sais-tu quoi, t'as fait un bon coup aujourd'hui, je voulais juste te le dire. Ce genre de pratique-là, dans le fond, des fois, on s'imagine aussi que ça prend des grandes théories, là, mais c'est pas toujours nécessairement le cas non plus.
C'est
ça.
Je peux ajouter là-dessus, puis s'il y a des employeurs qui nous écoutent, on va rapidement ramener ça à, oui, mais mes employés, leur personnalité, comment ils sont, puis vous avez raison, il y a une disposition personnelle. Ouais. En réalité, on surestime l'importance de la personnalité du monde. Toutes les études sur la personnalité, la mobilisation, la motivation n'ont pas trouvé grand-chose. En d'autres termes, prends les gens démotivés, mets-les dans une organisation qui a des pratiques plus innovantes, là, comme tu nous parles.
Ils vont devenir plus motivés.
Donc, on voit quand les chefs d'équipe changent. On change le chef d'équipe, tout à coup, ils deviennent mobilisés. C'est les mêmes individus.
Oui, Guillaume, t'en penses quoi,
je disais que le changement est difficile. Je participais à un forum dernièrement de gens de ressources humaines sur l'attraction. Puis évidemment, il y a des grands problèmes d'attraction.
Hey, c'est le thème là, cette année. Là.
Les solutions que les gens commencent à implanter date de 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on le sait. Ça fait 15 ans qu'il s'écrit un paquet de choses. Puis c'est un peu la même chose avec la motivation des employés. Je veux dire, les recettes sont faciles à trouver. C'est de se convaincre qu'on peut avoir un impact puis de les appliquer puis de se mettre en action qui est souvent assez difficile. En tout cas, c'est le constat qu'on faisait en matière d'attraction. Puis je pense que c'est un peu la même chose en matière de...
Puis on va voir qu'est-ce qui marche le plus en matière de justement d'engagement de tes
c'est
employés.
Simple,
mais je voudrais qu'on revienne quand même à cette notion-là parce que l'étude là, de Gallup, c'est l'état du marché du travail global. Puis on dit, ça vient d'être publié hein, il y a 5 jours, ça dit entre autres, ça dit 70% des employés en Amérique du Nord sont désengagés au travail. Nous, on l'a mis, on a parlé de motivation, mais le désengagement, ça sous-entend que t'as comme une espèce de grande distance entre toi puis ton travail, et ton employeur. C'est ça, c'est quoi
la productivité?
Engagé puis désengagé, Martine, pour
toi? Ben, écoutez, c'est sûr que c'est préoccupant comme données, là, parce que quand t'es pas engagé à ton travail, ça veut dire que t'es pas nécessairement le plus productif au monde. Ça veut dire que tu donnes pas nécessairement à la hauteur là, de tes compétences ou de ton expertise que t'es supposé te donner à l'entreprise. Fait que ça pose un sérieux problème, évidemment, pour les employeurs.
Ça veut dire
que
t'es là, mais tu t'en fous un peu.
Ben, c'est ça, tu t'en fous un peu, puis comme, d'après moi, le déluge, tu sais. C'est ça que ça veut dire.
Le cœur à maison. Finalement, ta tête est là. Si on prend une photo, t'es présent. Mais ton cœur n'est pas là.
Si on prend une photo, t'es dessus.
T'es là. Et ce qu'on découvre, c'est que la performance, les gens font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire qu'ils vont atteindre les objectifs demandés, mais le tout, ce qui n'est pas obligatoire, quand on n'est pas motivé, ce qui n'est pas évalué, ce qui ne paraît pas, ben c'est là qu'on ne le fait pas. C'est là que les gains se font. C'est comme si tu as une machine qui n'a pas d'huile. Fait qu'à un moment donné, elle pète.
Puis à faire des chiffres comme ça, c'est mettre un peu tout le monde dans le même panier. Là. Il y a un grand pourcentage de la population dont le besoin principal à satisfaire au travail, c'est de gagner leur vie, puis qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Mm. Mais on met tout le monde, quand on fait des indices comme ça, on met tout le monde dans le même panier. L'indice relatif du bonheur au travail, là, qui est créé au Québec, là, qui est disponible sur Internet, disent que c'est les trois catégories les plus satisfaites, c'est les médecins, les conférenciers et les travailleurs autonomes. Jean-François, on n'est pas mal.
Les plus satisfaits au travail, c'est ces gens-là?
Avec des chiffres d'au-dessus de 85%. Fait que faire des chiffres globaux comme ça, c'est passer à côté des fois là, de réalités qui sont bien différentes d'une catégorie de poste à l'autre. Puis moi, je serais bien intéressé de voir le chiffre sur quel pourcentage des employés qui, dans la vie, se disent motivés, sont démobilisés au travail. Là, il y a vraiment une responsabilité de l'employeur, mais l'individu qui, de lui-même, est découragé de sa vie, d'un paquet de choses, il est difficile à mobiliser. Là. Fait que, ces indices-là, c'est intéressant, mais des fois, on manque un peu de profondeur.
Mais pensez-vous que, des fois, on a l'impression que c'est de plus en plus difficile, là, la vie. Là, tu sais, tout à l'heure, on va parler de... beaucoup dans l'autisme ce matin. J'ai regardé beaucoup de vidéos, des témoignages de gens et tout. Puis je ne vais pas faire la discussion maintenant, on va la faire tout à l'heure, mais il y a quand même un fait que pour tous ceux qui ont des défis dans leur vie, là, que ça soit une maladie, que ça soit une mauvaise nouvelle, que ça soit une des précarité enfants? D'emploi. Vous allez me dire, ouais, ça a toujours été comme ça, mais est-ce qu'on le vit moins bien aujourd'hui, puis ça influence plus notre niveau de bonheur au travail?
Je pense qu'on est, Martine, comme société, en tout cas, moi, ce que je remarque des remarques aussi que les employeurs me font sur l'attitude par rapport au travail, c'est que on est dans une société où le travail n'a plus la même valeur nécessairement qu'avant, la même place non plus dans nos vies qu'avant. Hein? Moi, je me remets en arrière, là, à l'époque de nos parents, le travail, c'était fondamental dans la vie. Il y avait un aspect central, là. Alors qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus tendance à dire, ben, il y a pas d'autre chose. Il y a d'autres choses à dire. Il y a pas juste le travail. Il y a les loisirs. Il y a la famille. Donc, concilier tout ça. Puis dans un univers où tout va vite, tout bouge, là. Moi, je regarde juste les courriels. On en a déjà parlé dans une de vos émissions, Isabelle. Là, on est accro aux courriels. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Tout ça fait que ça va très vite, qu'on est toujours dans une espèce de sentiment d'urgence. Fait que quand tu as à concilier ça avec le reste, les enfants, la famille, parfois la maladie, etc., je veux dire, c'est sûr que c'est de plus en plus difficile.
Et donc, il faut trouver d'autres raisons de se motiver. Jean-François Bertrand.
La relation fondamentale qu'on a avec les travailleurs a changé aussi. Et donc, moi, je pense à la génération des milléniaux qu'on va appeler.
Mais t'es-tu un millénial, toi?
Non, c'est pas passé. Okay. Un Y, on dirait. Okay. Et on dit souvent, les jeunes, aujourd'hui, la place du travail, c'est vrai, mais je dirais, c'est les employeurs qui ont commencé. T'sais, on veut faire de la chicane. Mais, imaginons, dans le temps, on se faisait tatouer « Chantal, je t'aime » sur le bras. Puis là, de nos jours, les gens voient les stats de divorce, puis ils disent « Je me garde une petite gêne. » Je fais le parallèle.
C'est « Je t'aime, tu
Je l'ai pas.
C'est plutôt « Je m'aime
». Ouais, c'est ça. Mais je fais le parallèle avec les entreprises aujourd'hui. Les gens ont vu leurs parents perdre leur job. Ils voient la flexibilité de la main-d'œuvre. Le travailleur occasionnel se rappelle. Ben, ils se disent « Me faire tatouer là, le nom de l'entreprise, ça serait un peu même... peut-être manquer de jugement.
T'sais. Ben, regarde les employés de GM à Oshawa aujourd'hui. Ben t'sais, ceux qui ont tatoué GM sur leur bras, ils cherchent.
Les jeunes ne le feront pas. Là,
non, c'est clair. Mais t'sais, on en parlait avec l'équipe parce qu'on se souvient pas. On est tout le monde est comme, oh mon Dieu, c'est épouvantable ce qui se passe en Ontario, puisque vous avez sans doute entendu la nouvelle. Là, l'usine va fermer. L'usine de General Motors. Nous, on a vécu ça au Québec. Là. Je veux dire, c'est pas le fun là, pour les Ontariens qui travaillent là. C'est clair. 2500 emplois de perdus, c'est un coup dur pour une économie. Là. Mais nous, on a vécu la même affaire, il n'y a pas si longtemps. On n'a pas une gageure pour savoir combien de temps que ça avait pris. Vous en souvenez-vous, c'était il y a combien de temps? La fermeture de l'usine GM à Boisbriand, vous en souvenez-vous, Martine?
Ça fait quelques années, quand même.
C'était en 2002.
Ça
fait 16 ans. Mais on a vécu la même chose, nous, au Québec. Ça avait été toute une grosse affaire. Puis aujourd'hui, il paraît que c'est... Normand m'a dit c'est un centre d'achat, c'est ça. C'est
un centre commercial. Centre d'achat.
Un gros centre d'achat.
Ça reflète notre époque, quand même. C'est...
Oui, effectivement.
Mais pour venir à motivation, il faut voir aussi dans quel état on arrive au travail de nos jours. Tu sais, je veux dire, la vie s'est accélérée, la vie est plus remplie. J'écoutais en conférence Dr. Georges Sabongui, je sais pas si vous le connaissez, là, qui est un psychologue qui parle beaucoup de résilience puis d'équilibre entre le ressourcement puis le travail. Puis il citait un chiffre, il disait que dans les 25 dernières années, on a globalement perdu une heure de sommeil par nuit. Est-ce que ça fait qu'on est vraiment en pleine forme quand on rentre travailler le matin? Si on a passé en moyenne d'une semaine... D'une nuit normale de 7 heures à une nuit normale de 6 heures.
Et pourquoi on a une heure de moins?
Ben, c'est l'accélération de la vie, c'est un paquet d'éléments. Là. J'ai pas tous les détails, mais.
C'est intéressant.
C'est intéressant, docteur Sabongui.
Puis on notre sommeil, il n'est peut-être pas aussi réparateur qu'on le voudrait.
Ben, à 6 heures, hein, c'est plus difficile.
Non, puis la technologie. Je veux dire, 1 heure du matin, il fait encore clair parce qu'ils ont mis des grosses lumières fatigantes. On va parler d'électrosensibilité encore cette semaine. Puis toute la pollution lumineuse, moi, sincèrement, je vous le jure, il va falloir que je m'achète des nouveaux rideaux pour mettre par-dessus mes. Parce que on voit maintenant, c'est quasiment. C'est clair. Vous trouvez pas?
Puis le lien sur la motivation, c'est le
on va y aller après la pause.
Parfait.
Pour le lien, c'est la motivation. Mais voyez-vous, c'est toutes sortes de choses comme ça qui composent notre vie au travail. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Est-ce que vous êtes motivé, Chantal? Oh, Chantal.
Ah oui, excuse-moi pour le tatou, Chantal.
Non, mais Chantal a dit motivation au travail, un gros zéro. Après 32 ans, zéro appréciation. Ah, elle parle d'appréciation d'abord. Hein?
Ouais.
Un salaire assez ordinaire, certains collègues assez nuls. Donc, le matin, la motivation, elle n'est pas là du tout. Vous allez me dire, change de travail, Chantal, mais elle dit après 22 ans, c'est pas facile de partir. Ouais. Peut-être un jour, j'aurai le guts de le faire. Qui sait?
Tout de suite, là, elle a trois éléments. Je veux dire, le manque de reconnaissance, l'ambiance au travail. Bon, la rémunération, c'est un peu, ça peut être discutable selon les théories. Mais tout de suite, là. C'est pas facile.
Chantal, moi, je ferais peut-être ça plus tôt que prévu. On revient tout de suite après la pause avec vos commentaires. 514-790-9850. Si vous nous écoutez de l'extérieur de la grande région de Montréal, vous pouvez nous joindre sans frais en faisant le 1-866-790-9850. Je vous demande si vous êtes motivé ce matin ou plutôt démotivé, comme probablement, selon un sondage Gallup, 70% des travailleurs le seraient. Démotivé? On se donne une petite... On va sortir une petite musique le fun, hein? Jean-Christophe, peut-être une petite musique le fun? T'es-tu
un deuxième café.
Pour nous sortir ça? OK, on revient tout de suite après. Hey, on l'aime, ce tune-là. Avez-vous compris? Tout le monde travaille pour la fin de semaine. C'est ça, dans
God
le fond.
It's Monday.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. On a Roger avec nous. Bonjour, Roger. Êtes-vous démotivé, Roger? Il paraît que 70% des travailleurs en Amérique du Nord le sont.
Ah, j'irais plus loin que démotivé.
Oh. Expliquez-nous.
Moi, je suis dans ma deuxième job. Je dirais pas ce que je faisais dans ma première job parce que mon employeur va me reconnaître.
Mm-hmm.
J'ai pas le droit de parler contre mon employeur. Il aime pas ça. Il nous fout dehors quand on parle contre eux autres. Je vais poursuivre. Je travaille pour la STM, la Société de Transport de Montréal, chauffeur d'autobus.
Mm-hmm. Ça vous brûlait de me le dire, je le sens.
Alors, il fallait que je le dise. Ça fait 15 ans que je travaille pour la STM.
Mm.
Employeur, job exceptionnel, la clientèle, on n'a aucun problème malgré ce que le monde peut dire. Salaire exceptionnel, pas de pension, quelques modifications apportées aux conditions de travail. Patron de merde, gestion de merde. L'employé passe en dernier. Regarde. Démotivation, tu peux même pas t'imaginer. Je te parle pas d'un petit pourcentage, là. C'est pas juste Roger qui est démotivé, là.
Mm-hmm.
Je te parle des gars qui ont 30 ans de date, des demoiselles qui ont 30 ans de date et des nouveaux qui rentrent, qui s'imaginent qu'ils rentrent dans une place où ça va être exceptionnel.
Mm-hmm. Puis Roger, sans me donner de nom, là, parce qu'on veut pas de trouble, vous diriez que c'est quoi qui fait que vous êtes démotivé comme ça? Là? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vos gestionnaires ou votre patron vous motive à nouveau, vous redonne un petit bout de votre motivation perdue?
Moi, je suis un simple chauffeur d'autobus. Puis la solution, je l'ai déjà. Et la solution, là, vos invités la connaissent.
Mm.
Toutes les gens en ressources humaines apprennent c'est quoi les trois piliers.
Ouais.
C'est quoi le plus important? Rends tes employés heureux, puis le reste, là, tu vas faire de l'argent, puis tes clients vont être heureux. La STM, là, c'est pas ça. C'est les clients avant tout, puis ton employé est malheureux, c'est pas grave.
Ah ouais.
Mes clients sont contents, puis au public, je peux dire que c'est service client avant tout.
Ouais.
Ben, je suis désolé, regarde. Tu peux pas rendre tes employés, tes clients heureux puis réussir à donner un service exceptionnel.
OK, une affaire. Pleurent. Vous avez tout à fait raison. C'est sûr, c'est sûr. Mais en même temps, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, là, votre patron, il vient vous voir puis il dit, bon, là, Roger, finalement, j'ai remarqué, là, t'as pas l'air de bonne humeur, t'as pas l'air heureux au travail. Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Vous lui dites quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Une affaire.
Je pense que ce serait la première chose à faire. Ça serait de commencer par réussir à réorganiser le travail. Parce que la façon que le travail est organisé chez nous, c'est la façon que les horaires sont montés, la façon que le travail, quand les jeunes rentrent, votre fin de semaine avant 6, 7, 8 ans, les heures, ils sont obligés de travailler, d'être au travail 12, 13, 14 heures parce qu'ils travaillent sur des deux bouts.
OK. Ben ça, c'est concret. Ça, c'est concret. OK. Mais ben, merci beaucoup, Roger. Merci bien. Puis lâchez pas pareil, là. On a besoin de vous. Puis dites pas jamais, je suis juste un chauffeur d'autobus, là. Déjà, là, vous êtes... C'est important, là. C'est tellement important. Regardez quand ça marche pas, comment que les gens s'en plaignent. Donc, vous êtes important. Tout le monde... c'est sûr qu'il faut se dire aussi. Des fois, il faut se le rappeler. Là, puis quand ton boss te le dit pas que t'es important, difficile de se convaincre soi-même. Mais en tout cas, je tenais à vous le dire. Merci, Roger. Jonathan, bonjour.
Bonjour à tous. Ça va bien?
Oui. Êtes-vous motivé ou démotivé, vous, en ce lundi matin?
Bien, en fait, j'écoutais le commentaire de Chantal juste avant la pause qui avait 22 ans de service.
Ouais, 32.
Moi, j'ai travaillé 32.
Ouais.
J'ai travaillé 18 ans pour le groupe Rona avant de changer d'emploi.
Mm-hmm.
C'est c'était un emploi qui me motivait vraiment beaucoup au début, mais qui, bon, on connaît l'histoire, là, avec la vente et ça, là, il y a eu beaucoup de compression, etc. Donc, c'est devenu insoutenable, là, et j'ai fini par changer d'emploi. Là.
Ah oui? Mais, bon. Ça, ouais. Mais pourtant, depuis que Lowe's a acheté, là, vous avez remarqué la différence?
Oui, oui, surtout que mon départ date de moins de 6 mois. Là, les derniers propriétaires, là, dans le fond, tout de suite après M. Dutton, ça a fait en sorte qu'il y a eu d'énormes compressions et puis il fallait juste livrer la marchandise pour faire en sorte que les actionnaires soient contents.
Ben oui, c'est ce qu'on appelle dans le jargon « rendre la mariée belle ». C'est-à-dire qu'on arrange une compagnie pour qu'elle a l'air encore plus attrayante quand on est dans un processus de vente, là, c'est sûr.
On voulait avoir l'air en santé pour revendre à prix fort. Là.
C'est sûr, c'est toujours comme ça. Jonathan, fait que là, vous avez trouvé autre chose?
Oui, ben je suis allé pour la petite entreprise, donc une entreprise familiale.
Okay.
Et puis, je me retrouve beaucoup mieux là-dedans, des meilleures valeurs, des meilleures relations interpersonnelles. L'employé est vraiment à l'avant-plan là-dedans, donc ça fait en sorte que c'est beaucoup plus motivant. J'ai l'impression de travailler plus, mais d'en être plus heureux.
Ah, voyez-vous. Merci, merci Jonathan. Merci bien.
Bravo.
Réaction de Jean-François Berthelet.
Ben, premièrement, les deux interventions.
Roger est tanné, lui.
Ben oui, Roger est tanné, mais moi, je dirais un indicateur, s'il y a des employeurs qui nous écoutent ou des employés, c'est est-ce que je me sens traité comme un numéro? Oui. Ça revient tout le temps, même dans le langage commun des gens. Je suis un numéro. L'entreprise familiale, puis des petites entreprises, c'est pas pour rien que des fois les gens l'apprécient plus parce qu'ils retrouvent un sens de valeur du cœur, parce que c'est des êtres humains qui prennent des décisions. Tandis que quand je prends une décision, puis c'est des numéros pour moi, des colonnes de chiffres, c'est plus difficile.
Pis souvent, tu participes aux décisions, souvent, tu es informé des décisions, on t'explique, parce que dans ce que Roger décrivait, là, on entend souvent ça, particulièrement dans des grandes boîtes, et c'est une espèce de... moi, ce que je percevais, il y a une espèce de... L'employeur, il fait des choses parce qu'il est obligé de poser certains gestes, mais que les employés ne perçoivent pas toujours ils ne connaissent pas toujours les raisons pourquoi ça se fait. Et souvent, dans les grandes boîtes, on va imposer, from top-down, là, qu'on appelle, puis on impose, puis on n'explique pas pourquoi qu'on fait ça, puis bon, mettez ça dans votre pipe, fumez-la, puis bon. Puis alors que dans les petites entreprises, l'avantage, c'est ça, c'est que la ligne hiérarchique étant plutôt horizontale, ça permet plus de dire, d'impliquer tes employés, d'expliquer. Il faut prendre le temps comme gestionnaire d'expliquer pourquoi on fait les choses, parce que l'employé, il n'a pas toujours la perspective, lui, de l'employeur.
Puis il faut juste le rassurer, dans le fond.
Bien, tout à fait.
Je veux dire, c'est pas qu'on te met en retrait, mais c'est que dans ce cas-ci, t'es mieux à faire autre chose que...
C'est ça. Ou j'ai pris telle décision parce que j'avais tel impératif dont il fallait que je tienne compte, puis je comprends que tu n'étais pas nécessairement au courant, mais je voulais te l'expliquer. Ça, c'est super important.
Dans des entreprises ou dans des petites entreprises, si vous côtoyez beaucoup d'entrepreneurs, vous allez entendre à un moment donné des histoires où les gens ont passé à travers d'énormes difficultés. Ils ont réussi à les partager, puis ils se sont rendus compte que leurs employés étaient prêts à travailler moins d'heures pour réduire les dépenses, à faire un paquet de sacrifices parce qu'ils étaient informés, qu'ils avaient confiance en la direction, qu'ils avaient les informations et ils comprenaient la situation. Parfois, dans la grande organisation, on oublie de faire ces communications-là essentielles.
J'ai Sylvie qui m'écrit à isabelle@985fm.ca et elle me dit qu'elle n'a plus aucune motivation après 25 ans pour le même employeur. Les foutues évaluations de performance, dit-elle, sont venues tout bousiller. Les personnes font que rencontrer leurs objectifs parce qu'ils sont évalués selon objectifs, mais tout le reste, aucune collaboration, du coup, avec tes collègues. Les gens sont devenus tellement individualistes, dit-elle. Il n'y a plus aucun esprit d'équipe, à moins que ça rapporte aux personnes en particulier. Ben, dit, quant aux jeunes, la majorité ont des ambitions démesurées, sont prêtes à vendre leur mère pour y arriver. Elle dit, moi, je t'offre, là, parce que la retraite approche, mais je peux vous dire que c'est pas facile au quotidien. Ça, c'est le témoignage de Sylvie. J'en ai beaucoup comme ça, là. Sylvie représente beaucoup de monde.
Ça a l'air d'un troupeau de chats, cette affaire-là, à l'entendre, non?
Et c'est pas drôle, là.
C'est, ouais.
On va aller à la pause. J'ai Dylan qui me dit, moi, ce matin, je suis très motivée de rentrer au travail.
Bon, bravo.
Ah, il dit, après avoir géré la fin de semaine, à gérer mes 3 enfants.
Il va se reposer au travail.
Et leurs 5 amis. Non, mais ça peut être bon. Tu sais, il faut trouver ton équilibre quelque part. Ils ont entre 6 et 11 ans. Il dit, pour moi, le travail, c'est les vacances. Ben, ça, je me sens tout. Non, mais écoute, ça peut être ça. Tu sais, ils ont des grosses fins de semaine.
Ça peut faire du bien, effectivement.
Exactement. 514-790-9850. On revient tout de suite après. Je demande si vous êtes motivé ou démotivé au travail. Ça a l'air que 7 travailleurs sur 10 sont démotivés. Qu'est-ce que ça vous prend? prendrait pour vous rallumer la flamme. À tout de suite, tout le monde. Alors, c'est notre rendez-vous habituel avec notre nouvel ami qui s'appelle Luc, facteur de son état. Salut, Luc.
Bonjour, Isabelle.
Comment ça va cette semaine? Hey, c'est demain, là, la loi spéciale, peut-être, là.
Oui, ça commence pas très fort, je te dirais, non. Isabelle. Puis honnêtement, je voulais pas brûler mes interventions avec toi, mais ça m'interpelle ce matin. Puis ça n'a pas juste rapport avec le fait que je suis en égo, oui, un peu, mais quand même, la grisaille. Pourquoi? Parce que, tu sais, du monde comme moi, là, comme je te disais, la minorité dans la minorité, nos 8000, là, la réalité, là, c'est que nous, là, on doit faire 2 travails, puis des fois 3 travails, ouais, pour avoir un salaire décent. Mm-hmm. Puis là, depuis un mois et quelques, ben, parce qu'on est en moins de pression, parce que mon syndicat demande de faire des choses que je suis assez d'accord, ben je dois changer mes journées de travail qui fait que ça m'empêche de faire mon deuxième travail.
Ben oui,
des métiers que j'adore. Fait puis vous avez parlé de ressources humaines, ben ouais, c'est, on peut-tu jaser de ça? Parce qu'il y en a de ressources humaines puis employés, on a 50 000. Puis il y a bien de quoi que l'employeur, c'est pas fort leur département ressources humaines. L'exemple parfait, puis je veux pas prendre beaucoup de temps là, lorsqu'on a commencé le moins de pression, l'employeur nous a envoyé des communiqués. Le premier communiqué disait: bonjour cher employé, nous savons que vous faites des moyens de pression, mais malgré ça, on vous comprend, mais on va couper vos conditions de travail. C'était ça la première version. Fait que d'une main, ils nous disent, on comprend, mais de l'autre main, ils nous ont dit, parfait, on vous coupe vos avantages sociaux, on vous coupe ici, on vous coupe l'assurance, le programme d'assurance maladie. C'était ça, c'est le genre d'employeur.
Ah fait oui, l'avez-vous encore, ce communiqué-là?
Oh, j'en ai plein de communiqués, Isabelle. Oh,
envoyez-moi
plein,
ça, isabelle@985fm.ca. J'adore ça, lire ouais, des communiqués de patrons.
Oui, je sais.
C'est toujours le fun.
Mais le,
c'est surtout le dernier paragraphe, surtout chez Bombardier, ouais, c'est le dernier paragraphe qui compte dans les communiqués.
Ouais,
hey, Luc, non, merci, mais essayez quand même de garder la foi, là, ou en tout cas de parce qu'après, c'est nous, il y a ça, là, c'est nous qui vivons avec cette démotivation. Je sais pas si Jean-François va intervenir là-dessus.
Puis, c'est un sentiment d'injustice souvent. Puis je pense aux gilets jaunes en ce moment. Là, quand tu regardes, peu importe le sujet, puis souvent c'est très diffus, les revendications, mais c'est comme un écœurantite aigu. Non, mais
ça là, on le sous-estime.
Mais oui, et c'est biologique. Hein, c'est-à-dire que l'être
les
humain...
Les gilets jaunes, c'est un... Tu sais, la France, ils ont fait des grosses révolutions. Mm-hmm. Eux autres, là, sont pas tranquilles. Là,
non,
révolution.
Non, c'est sûr. Ils sont en maudit.
C'est le début. Ils sont tannés.
Ouais.
Ça, c'est un mouvement citoyen contre la surtaxation. Ouais. Mm-hmm. En France, ils sont trop taxés.
Mm-hmm.
Puis, c'est drôle parce qu'on a parlé avec mon chum en fin de semaine. Je me disais, je sais pas si au Québec, on sortirait, nous autres.
On est paresseux. On dirait, ça dépend s'il fait beau.
Les Québécois ne vont pas faire ça. Mais savez-vous quoi? Savez-vous quoi? Moi, je pense que c'est pas parce qu'on est paresseux puis qu'on pense pas... Puis qu'on en dit, c'est pas ça. Nous autres, on est peut-être plus créatifs. Au lieu, on va juste s'organiser autrement.
Mm-hmm.
Ah oui, tu me taxes, check-moi bien aller. Mm-hmm. Écoute, il y a 10 jours, on a fait une émission sur le travail au noir. C'est ça que le monde me disait. Mm-hmm. T'étais là,
ben oui, ben oui,
les gens disaient, regarde, on me surtaxe, on va m'arranger.
Non, mais c'est comme le vol en entreprise, le vol interne dans le commerce de détail.
C'est ça qu'ils font. Ils disent, ah, tu veux pas me payer, check-moi bien.
Je vais me
refaire. C'est inéquitable, le système au Québec à l'heure actuelle. Il y a ça aussi. C'est comme, on fait peser tout le gros de la fiscalité, sur le fardeau de la fiscalité sur la classe moyenne.
Sur le citoyen.
Sur la classe moyenne. Alors qu'on devrait faire payer, tout le monde devrait payer sa juste part d'impôts. Puis ça, malheureusement, les grandes multinationales qui font de l'évasion fiscale à l'étranger, ben ils payent pas leur juste part d'impôts. Et ça, les citoyens, quand ils voient ça...
Ça écœure.
Ben, sont écœurés.
Ouais.
Puis les entreprises de la classe moyenne aussi, qui eux autres sont pognés hein, à payer leurs impôts, puis ils payent leurs impôts parce qu'ils peuvent pas envoyer leur argent au Bahama, là. Ben, je dis, c'est sûr. Fait que ça, dans un système comme ça, c'est clair. Maintenant, bon... Il faut continuer à pousser sur les gouvernements pour
prendre
l'action.
Parce que tout augmente. Je sais pas. Écoutez, en fin de semaine, moi, j'étais surprise. T'as acheté un manteau d'hiver? Ça coûte 500$, un manteau d'hiver. Vous remarquez, là, depuis 5 ans, le prix des manteaux d'hiver, il y a comme...
Les bottes.
Les bottes, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Il y a du monde qui font ça dans la semaine. Mm-hmm. Là. Ça veut dire que tu vas travailler une semaine pour te payer ton maudit manteau.
Puis le petit commerçant, là, il fait pas 40% de marge de profit là dans son année là, sur son commerce.
Les communiqués de grands patrons, ils vont dire tout le monde doit faire un effort. Moi, je le fais l'effort, inquiète-toi pas.
Exact. Là, on a Jean-Paul avec nous. Bonjour, Jean-Paul.
Oui, bonjour.
Êtes-vous motivé ou démotivé, vous, ce matin?
Moi, je suis toujours très motivé. J'ai toujours été très, très motivé. Ça fait une 41e année l'année prochaine que je suis dans les pharmacies, dans les cosmétiques.
Ouais.
Et puis, j'étais 20 ans avec une multinationale. Et puis, après ça, on a pris une compagnie d'huile essentielle de Saint-Joseph-du-Lac. On a mis ça sur le marché. Et puis, j'adore le travail que je fais. Puis, j'ai une journée démotivée au niveau de mon travail, au niveau des pharmacies. J'ai jamais connu ça.
Bon, ça fait du bien entendre ça.
Ben oui.
Ben oui, c'est parce que c'est autrement dit, c'est que je prends des produits, je les mets sur le marché, je suis toujours motivé, puis j'aime le travail que je fais, puis c'est ça qui me motive aussi.
Ben merci, merci beaucoup. Daniel, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Daniel.
Bon, moi, je suis un ex-col bleu à la retraite. Mm-hmm. J'adorais mon travail, mais au niveau de la motivation, c'est totalement nul. Parce que dans les grandes entreprises comme, que ce soit Ville de Montréal, STM, que ce soit Bombardier, les hauts gestionnaires ne travaillent que pour privatiser, pour réduire les coûts de production, envoyer ça à l'extérieur, pour s'éviter de la gestion de personnel. Puis les ressources humaines, c'est pas des ressources humaines. Ce sont des gestions de ressources parce qu'il n'y a rien d'humain dans la façon qu'ils fonctionnent.
Ah oui. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que pourtant, le travail de gestion, c'est 80 % d'humain, là, en théorie. Là. Dans théories, c'est ça, ah oui, Jean-François.
Puis la job se passe là. Là.
Oui. Ouais.
Encore le leadership...
Ça vient de la haute direction. Quand la haute direction a un but de travailler à long terme, parce que ça se fait lentement, de donner tout au privé, ben après ça, vous faites comment pour motiver vos employés? Ouais. Ils savent que les jobs disparaissent.
Ouais.
Il n'y a rien de pire. Puis parce que les employés sont démotivés, ben ça produit moins, ça donne un petit peu plus de raison d'envoyer ça au privé.
Ouais.
C'est une bien mauvaise roue qui tourne.
C'est vrai, vous avez raison de dire qu'il y a un impact direct sur la productivité. C'est d'ailleurs connu que les entreprises qui savent motiver leurs employés, j'ai des chiffres ici, peut-être t'en as, Jean-François aussi, mais on dit qu'il y a comme une augmentation, c'est comme 40%
de gains de productivité. Oui, c'est ça, les gains de productivité. Satisfaction des clients. Ouais. Tu sais, un service wow, toutes les entreprises veulent offrir un service wow, mais quand ton employé ne se sent pas wow, c'est bien difficile d'offrir un service wow.
On dirait que toi, tes employés, puis ils vont bien servir tes clients.
Oui. J'ai Sébastien qui travaille chez Bombardier, qui dit 18 ans chez Bombardier. Tout ce que vos intervenants disent par rapport aux grosses boîtes, c'est la vérité. La grosse entreprise n'écoute pas ses employés, les motive pas, les prend pas en considération. Lui, il est complètement démotivé. Puis il dit, comme beaucoup de mes collègues, je rentre au travail juste pour la paye, les assurances collectives puis le fonds de pension. Comment voulez-vous être motivé quand on voit que la haute direction nous serre la ceinture depuis des années en nous disant qu'on coûte trop cher, qu'on doit couper les coûts de production alors qu'eux se remplissent les poches à coups de millions? Mais nous, comme citoyens, je veux juste vous dire, Sébastien, qu'on se sent comme vous. Il dit, la motivation de tout le monde est à zéro. Puis là, la grogne s'est installée. C'est vraiment un climat de travail assez démotivant.
C'est pas gagnant pour personne.
Non.
Moi, je pense que ce qui est important dans les entreprises, c'est d'ouvrir les canaux de communication. Quand les canaux de communication sont pas ouverts, puis que t'imposes des choses, puis que, encore une fois, je reviens à dire que t'expliques pas le pourquoi, que tu prends pas le pouls non plus de ton équipe, des employés, ben c'est sûr que ça crée des situations qui sont difficiles. Hein? Puis je pense que les entreprises auraient tout à fait intérêt, parce que effectivement,
les employés motivés,
ça augmente la productivité. Là, ça, c'est clair.
On a un bon exemple. Tu vois, là, on vient de parler d'un gars chez Bombardier. Là. Il y a pas longtemps, là, ces jours-ci, il y a une semaine ou deux, on cherchait Alain Bellemare. Il était pas là. Il venait d'annoncer une perte de job, là, dans 2500 au Québec, puis on le cherchait.
Ouais,
il me semble que c'est de la vieille gestion. Tu sais, la gestion de... On cherche le boss, il n'est pas là, il s'est poussé alors qu'il y a une annonce épouvantable. Voyons, c'est dans les années 80.
Peut-être qu'il aurait dû dire...
Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, Alain, il faut que tu reviennes, il faut que tu parles au monde.
Ou alors, il faut que tu annonces que tu vas rencontrer, que tu dois t'absenter malheureusement pour quelques jours parce que tu n'as pas le choix.
Mais ça ne paraît pas bien.
C'est ça, voilà. Alors, on revient au problème de communication, de dire, c'est important de communiquer le pourquoi, là, dire le pourquoi, les raisons, c'est super important.
Guillaume, là-dessus?
Mais, oui, l'employeur, tu sais, il est responsable du climat.
Tu dis, il y a quelqu'un qui a dû y dire à Bellemare, mais il n'y a pas écouté.
Certainement que ces gens de relations publiques, en tout cas, j'espère qu'ils l'ont dit. Mais moi, j'entends aussi là, des gens qui sont dans des situations depuis longtemps, qui sont malheureux, qui restent là pour les conditions. Dans le fond, qui ont des menottes dorées, ils ne se responsabilisent pas bien aussi. Si tu es malheureux pendant 18 ans, peut-être qu'il faut que tu te responsabilises puis que tu fasses quelque chose. Mais avoir des menottes dorées, c'est ça, c'est d'avoir des conditions de travail qu'on ne sera pas capable de retrouver ailleurs. Puis on accepte en quelque part aussi cette situation-là quand on reste 15 ans dans une organisation où on est foncièrement malheureux, avec un paquet de bonnes raisons. Là. Je veux dire, c'est possible là, que l'employeur ne fasse pas une bonne job, mais en quelque part aussi, on a un choix. On peut voter avec ses pieds,
comme on dit. En tout cas, je ne sais pas, là, mais Roger, syndiqué.
Ouais.
Jonathan, il y avait un syndicat aussi. Là, là on a entendu.
C'est
Luc,
ça, là. Si vous me permettez, Isabelle.
Sébastien,
là,
syndiqué. Ouais. Je ne sais pas, mais le bonheur n'est plus dans le syndicat. Là.
Non, mais si vous me permettez, Isabelle, là, les cas de Roger et tout ça, là, ça en est aussi. L'employeur, peut-être qu'il a décidé de faire de l'impartition à quelque part de certains services pour sauver des emplois ou parce qu'il y a des clauses dans les conventions collectives qui l'empêchent de faire telle affaire. Donc,
écoute, s'ils gèrent comme... leur monde comme ils gèrent le trafic. On s'étonne pas qu'ils soient démotivés. On va aller à la pause. On parle de démotivation au travail. Alex, votre statut, c'est quoi, vous?
Ben, moi, je suis motivé, mais moi, je travaille pour moi-même, puis j'ai pas d'employé, puis je fais ma petite affaire, puis ça va bien. Mais c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Moi, je veux parler de pourquoi les gens sont démotivés, parce que ma conjointe, mes amis, tout le monde autour de moi... C'est pas mal vrai ce que vous dites. Ouais. C'est difficile de trouver des gens qui sont motivés. Mmh. Puis je pense que j'ai une partie de la réponse. Okay. Mais peut-être que je me trompe. Mais moi, je pense que la réponse, c'est quand on a commencé à appeler ça des ressources humaines. L'être humain n'est pas une ressource. Les personnes qui travaillent pour vous ne sont pas des ressources. C'est des membres de votre équipe. C'est des membres de votre famille au travail. Mmh. Vous savez, les Américains, ils disent... qu'une corporation, une grosse organisation, c'est comme un arbre rempli de singes. Il y a des singes en haut, il y a des singes dans le milieu, il y a des singes en bas. Les singes en haut, ils regardent en bas, ils voient rien que des beaux visages. Les singes dans le milieu, ils regardent en haut, ils voient des derrière, ils regardent en bas, ils voient des beaux visages. Les singes en bas, eux autres, ils regardent en haut, ils voient des derrière en haut d'eux autres. C'est pas ça, le problème... c'est un problème de hiérarchie, c'est un problème de structure. Ouais. C'est parce qu'on a trop de structures verticales, puis on n'a pas assez d'occasions de d'être écouté, de proposer des choses, de travailler.
Jean-François,
je vais ajouter. Monsieur, merci, je ne sais pas si vous avez un copyright sur votre image, sinon je vais la prendre. Moi, je suis enseignant en gestion des ressources humaines, puis c'est drôle à dire, je suis totalement d'accord avec vous sur. L'idée de ressources humaines. Pour moi, là, tu sais, vous êtes au travail ce matin, vous êtes une ressource humaine. Vous êtes d'abord et avant tout un humain. Puis au-delà du choix des mots, ça témoigne d'une philosophie de gestion. Puis je vais faire un parallèle avec ce que monsieur dit, la hiérarchie. Tu sais, puis là, il y a beaucoup de modes d'enlever l'hiérarchie. Puis au-delà de la hiérarchie puis de la structure qu'on voit sur papier, est-ce que les employés ont le sentiment d'avoir un contrôle sur leur travail? Ils font juste subir les décisions. Puis je reviens à Henry Mintzberg, qui est un gourou, puis je le répète des fois que je peux le dire. Il dit, arrêtons de faire l'apologie du leadership. Le leadership, c'est bon, le leadership, mais le futur va être... à la communauté. Puis lui, il appelle ça « community ship ». Il dit, dans le fond, c'est un grand village. Fait que pour changer l'image du monsieur, pour la mettre positive, un grand village où il y a des gens qui ont un peu plus des responsabilités dans le village, mais on travaille tous ensemble. Mais l'idée de la hiérarchie traditionnelle, elle est un peu arrivée à la limite de sa vie utile.
Tout à fait, c'est vrai.
Oui, parce que les valeurs par rapport au travail changent, comme on a dit en début là, d'émission.
Mais qu'est-ce que ça prendrait quand même? Je voudrais qu'on revienne là-dessus. Il nous reste 2 minutes.
Moi, je pense que.
Pour motiver un petit peu plus. Les gens nous écoutent, il y en a une méchante gang de démotivés. Qu'est-ce qu'on leur peut leur dire?
Que tout le monde prenne ses responsabilités. Si tu es un employé qui n'est pas heureux dans ta job, peut-être qu'il faudrait que tu penses à changer, parce que peut-être que ce n'est pas juste la faute à ton employeur non plus. Si ton employeur.
Donc, une introspection.
Puis chez l'employeur, par contre, lui aussi, il a une responsabilité. Mieux communiquer, je l'ai dit depuis tantôt. C'est super important de la communication avec les employés. Les petits gestes font grand bien. Le petit courriel, la petite tape dans le dos, le petit bravo font une grande différence.
Et tu ne prends pas des bonnies quand tu coupes le salaire de tes employés, genre?
Mettons, quand tu vois, si tu le fais, parce que je les garde et non pas...
Mario qui dit, il travaille dans la santé, services sociaux, il dit, tout va au médecin, le reste, c'est juste des miettes. En 2011, on était 7 dans mon secteur. 2015, on est maintenant 5 pour s'occuper de plus de gens qu'en 2011, justement. Tout ça avec une augmentation sous le taux de l'inflation. Mmh. Une chance que mes collègues sont du beau monde puis sont fiers, mais au final, cette réalité finit par nous saper tranquillement, mais sûrement notre journée.
Ah, mais le réseau de la santé, les réformes, ça a été dur.
Mais on a beaucoup des gens de grandes organisations. Mais tu sais, si on peut mettre de l'avant certains conseils puis les organisations, là, le premier, c'est s'intéresser aux gens, la considération, même avant la reconnaissance. Là, les gens, ils ont un prénom, ils ont une vie, ils ont une réalité. Juste les écouter. Évidemment, reconnaître les bons coups. On l'a dit tout à l'heure. Des fois, c'est pas compliqué. Pas besoin de faire une grosse remise de prix, d'être juste, hein, le traitement équitable, la justice, c'est important. des aider à faire le boulot. Aujourd'hui, le rôle d'un patron, là, ça devrait être d'enlever les obstacles à ses employés pour qu'eux puissent réaliser leur travail.
Oui, puis leur demander, Isabelle qui me dit, motivation, il faut parler de la quête de sens des employés. Aussi, il faut demander, Jean-François, aussi à tes employés, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu es là?
Ben oui, exactement. Hein? Puis, tu sais, il y a une belle citation de Steve Jobs qui circule toujours, mais qui est tellement bonne, qui dit, on est fou dans le fond, parce qu'on embauche des employés qui sont qualifiés pour leur dire quoi faire. Ouais. On devrait embaucher des gens qualifiés, puis qu'eux nous disent quoi faire.
C'est les écouter,
Ça s'appelle des consultants.
Mais donner du pouvoir, tu sais, des fois dans des organisations qui sont top down là, on prend un paquet de décisions pour les employés, on leur impose des affaires alors que dans le fond là, il y a bien des choses qu'ils savent et sur lesquelles ils pourraient prendre des décisions, et ça c'est un élément de mobilisation là, quand on a cette capacité là.
Leur expliquer pourquoi sinon on prend des décisions quand on peut pas échanger.
Exactement. Ouais.
Mais plus écouter ces employés aussi. Absolument. Ça serait une bonne chose, tu sais, ça se peut qu'ils sachent un petit peu comment faire,
avoir le courage aussi de la critique constructive.
Oui,
très important.
Hey, merci à vous trois.
Merci.
On se retrouve après les nouvelles.